Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins du vendredi où chaque semaine nous donnons la parole aux philosophes contemporains qui s'aventurent dans les dédales de la pensée, de leur pensée ou des auteurs qui leur sont chers. À 10h46, Géraldine Mosna-Savoie vous proposera comme tous les vendredis en période électorale son petit précis philosophique à l'usage des candidats. Elle donnera aujourd'hui quelques conseils à Henri Guénaud. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le philosophe Emmanuel Faye, professeur de philosophie moderne et contemporaine à l'Université de Rouen-Normandie, auteur d'Heidegger, introduction du nazisme dans la philosophie, disponible au livre de poche, qui a fait paraître l'an dernier Arendt et Heidegger, extermination nazie et destruction de la pensée, aux éditions Albin Michel. Alors pourquoi encore parler de Heidegger quelques semaines seulement après une série d'émissions que nous avons passées à lire et expliquer son livre principal, Être et temps ? Eh bien parce que si le goût pour ce texte difficile vous a peut-être été transmis par de brillants spécialistes, sachez que pour d'autres, et pour des raisons irréfutables, c'est du dégoût qui naît à la lecture de ces pages, et loin d'être un haut le cœur de coquetterie, ce rejet s'explique par des raisons que mon invité Emmanuel Faye est venu vous expliquer aujourd'hui.
En ce début du XXIe siècle, à mesure que paraît tout un ensemble d'écrits de Heidegger nous confirmant la radicalité de son national-socialisme et de son antisémitisme, de ses séminaires au cahier noir, les défenseurs de l'auteur de la profession de foi des professeurs allemands envers Adolf Hitler se raccrochent à l'intensité de sa réception pour tenter de sauver son statut de grand penseur. Certains vont jusqu'à affirmer que tous les philosophes français du XXe siècle auraient entretenu un rapport essentiel à Heidegger, ce qui est oublié Bergson, Cavaillès, Jankélévitch et bien d'autres encore. En philosophie, cependant, ni la réputation, ni l'ampleur de la réception, qui sont d'ailleurs choses changeantes, ne font autorité. Le temps semble révolu, où l'on pouvait, par exemple, se référer positivement à la philosophie de Joseph Staline sans que personne ne s'en émeuve. Il importe donc de distinguer nettement l'examen critique de l'œuvre de Heidegger des questions que soulève l'ampleur de sa réception. C'est sur la base de ces distinctions que nous avons publié en 2005 une étude des fondements nazis de l'œuvre heideggerienne.
Bonjour Emmanuel Faye.
Bonjour Adèle Von Rett.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous venez de lire le début de votre texte, hein, Arendt et Heidegger, extermination nazie et destruction de la pensée, aux éditions Albin Michel, et le projet est clair. Hein. Vous dites qu'il vous importe de distinguer nettement l'examen critique de l'œuvre d'Heidegger des questions que soulève l'ampleur de sa réception. Est-ce que ça veut dire que l'objection, on va commencer par là, avec ce terme peut-être même un peu faible, hein, mais l'objection que vous faites à Heidegger concerne tant le fond de sa pensée que son engagement politique?
Oui, un mot tout d'abord peut-être sur le début de mon nouveau livre. Lorsque j'avais publié en 2005 Heidegger, l'introduction du nazisme dans la philosophie, où il s'agissait de faire connaître des séminaires inédits, très souvent des journalistes ou des philosophes m'opposaient la liste des grands auteurs du XXe siècle, une liste qui allait de Sartre à Lévinas, en passant par Arendt et d'autres, pour dire que, étant donné la force de l'influence heideggerienne, on ne pouvait pas mettre en question son statut de grand philosophe. Donc à l'époque, je rappelais toujours que cette question de la réception a sa signification propre, que je ne voulais pas en traiter, et que ce n'était qu'un argument d'autorité, si on se basait là-dessus, pour évaluer l'œuvre même de Heidegger. Mais à un certain moment, j'ai voulu aborder cette réception. Et je ne pense pas qu'on puisse l'étudier de manière globale, sans différencier. Si on prend par exemple Lévinas jusqu'au bout a dit que Heidegger, c'était un nom qui avait un rapport avec le crime. Donc il a maintenu cette critique très forte, et en même temps, il tenait, Être et temps, le livre de 27, comme un livre majeur de la philosophie du XXe siècle. Donc il était dans la porie. Mais au moins, il y avait une critique chez lui. Le cas de Hannah Arendt est différent parce que Arendt, en 46, je le montre longuement dans un chapitre de mon livre, est très critique à l'égard de Être et temps. Elle dit que c'est vraiment un livre qui conduit à une déshumanisation, qu'il y a une dérive de Heidegger qui remplace l'homme par le Dasein, par l'existant, qui le dépersonnalise, etc. Mais à partir de la fin des années 40, Arendt change radicalement et elle va devenir vraiment un médium, un agent de la diffusion américaine et planétaire de Heidegger, un agent incomparable dans les lettres à ses différents amis, correspondants, on la voit à l'œuvre. Donc j'ai voulu travailler le problème de la réception en me centrant sur le problème Arendt.
Alors, vous avez voulu travailler le problème de sa réception, mais aussi, c'est pour ça que je citais cette phrase dans votre introduction, hein, sur l'examen critique de l'œuvre de Heidegger. Et c'est pour ça que je vous pose cette question à vous, qui êtes l'auteur de ce livre. C'est qu'est-ce qui vous pose problème? Est-ce la réception de l'œuvre de Heidegger? Est-ce son œuvre elle-même, qu'à bien des égards, peut-être on ne peut pas distinguer de son engagement nazi? Ou est-ce le fait que, à titre privé, c'est-à-dire pas simplement en tant que philosophe, mais aussi en tant que Martin Heidegger, il s'est engagé du côté du national-socialisme. Je rappelle qu'en 1933, il prend sa carte au Parti national-socialiste, qui ne la rendra que 10 ans plus tard, et qui n'est jamais revenu sur cet engagement.
Oui, alors maintenant, effectivement, il faut vraiment partir de Heidegger. Et pour Heidegger, ce que, en 2005, j'avais apporté de nouveau par rapport aux travaux de Hugo Hoth ou de Victor Farias, qui déjà dans les années 80 avait soulevé une controverse internationale sur l'engagement politique de Heidegger, j'ai voulu montrer, moi, que dans l'œuvre même, il y avait un fondement qui était trop radicalement ancré dans l'antisémitisme, le racisme, et même dans une intentionnalité, on y reviendra, que l'on peut dire exterminatrice, puisque le mot extermination est malheureusement l'un des concepts récurrents de Heidegger. Donc là, vraiment, j'ai voulu faire porter le fer de l'analyse, le fer de la lecture critique, dans le cœur de l'œuvre. Alors, il y a 10 ans, il y a 11 ans, en 2005, beaucoup ont pensé que j'exagérais, dans la mesure où les séminaires que je dévoilais étaient inédits.
Les séminaires de Heidegger, sur lesquels
ouais,
vous travaillez.
Il y avait 2 séminaires des années...
Qui ne sont pas toujours disponibles en français, d'ailleurs.
Oui. Alors, justement, le point sur lequel je voudrais mettre l'accent, vraiment, c'est la situation française qui est absolument unique en Europe et dans le monde. Hein. Mais avant de, justement, en venir à ce point, il est important de voir que ce qui pouvait sembler exagéré il y a 10 ans a été, je crois, beaucoup d'auteurs, de critiques l'ont dit depuis 2014, largement confirmé, voire aggravé par la publication de 4 volumes, 1800 pages de cahiers noirs pour la période 1931-1948, des cahiers noirs dans lesquels on découvre pas seulement, comme l'avait souligné l'éditeur Peter Travny, l'antisémitisme heideggerien, mais aussi la nature de cet antisémitisme, dont je soutiens vraiment qu'il a une dimension exterminatrice et génocidaire. On peut le voir à différents énoncés de ces cahiers noirs. Et là intervient la situation française. C'est-à-dire que, en 2005, j'ai fait connaître 2 séminaires qui étaient inédits, aussi bien en allemand. Depuis lors, ils ont été publiés en allemand en 2009, ils ont été traduits en anglais, en italien, etc. En français, rien. De même, les cahiers noirs, sur les 4 volumes, 3 sont traduits en italien. Le premier a été traduit il y a 1 an en russe, 2 sont traduits en anglais, etc. La liste est longue, en espagnol, en France, rien.
Et comment vous expliquez cette spécificité française?
Alors, la spécificité française est due au fait que le blanchiment, la réception, on peut dire, édulcorée de Heidegger a été largement due à un certain nombre de personnalités françaises, à commencer par Jean Beaufray et son disciple François Fédier. Hein. Lorsqu'en 2002, j'étais allé à Marbach, où l'on venait d'apporter la correspondance de Heidegger avec son éditeur, j'étais très frappé de voir que dans les années 60-70, vous aviez la liste, vous avez des exemplaires à donner. En général, la liste, il n'y avait qu'une 10aine de noms. Et à la fin, il y avait 6 exemplaires Führer Fédier. C'est-à-dire que vraiment, Le passage par le canal de la France a permis de réhabiliter Heidegger à un moment où, en Allemagne, il était quand même sur la sellette, parce qu'on en savait plus, je pense. Donc, il y a cette situation. Et en France, vraiment, les ayants droit ont bloqué. Il y a vraiment une position de censure éditoriale qui est inégalée. Par exemple, il faut se dire que en 2005, peu après mon premier livre, Le Seuil publie l'édition Capitale de la correspondance entre Heidegger et Elfriede, sa femme. Alain Badiou et Barbara Cassin font une préface assez polémique, où je suis d'ailleurs très attaqué, mais ils attaquent les ayants droit. Ils sont critiques envers Heidegger. Et que font les avocats de Heidegger? Ils font pilonner cette édition qu'on ne peut plus trouver depuis. Alors, j'ai d'ailleurs écrit une lettre de solidarité à ce moment-là à Barbara Cassin. Il y a eu un geste de censure. L'édition a été pilonnée parce que on avait ajouté une préface qui n'allait pas dans la ligne des ayants droit. Or, justement, je termine sur ce point. Ces lettres sont majeures parce que c'est là où nous avons une lettre antisémite de 1918 sur laquelle on reviendra.
Alors, oui, justement, et on va y venir assez vite. Simplement, encore une question, puisque vous parlez de la spécificité française dans la réception de Heidegger. Quel est, selon vous, le problème qui se pose? Est-ce un refus de la part des philosophes français, puisque nous parlons d'eux, contemporains de Heidegger et de nous-mêmes, de prendre en compte l'antisémitisme de Heidegger? Ou est-ce la volonté qui, finalement, et c'est là l'enjeu de notre discussion, qui peut peut-être être compréhensible, de distinguer d'un côté le travail philosophique de Heidegger, ce qu'il écrit dans Être et Toi et dans d'autres textes, et de l'autre, son antisémitisme, son engagement nazi, le fait que peut-être que l'un ne recouvre pas complètement l'autre, et c'est ça qui vous est insoutenable, c'est peut-être ça que veulent faire entendre certains Français.
Oui.
C'est-à-dire qu'une chose est de faire connaître son antisémitisme, une autre est de dire que du coup il ne faut presque plus parler de Heidegger, ne plus le lire parce que sa pensée est absolument dangereuse.
Oui, alors ma position n'est pas du tout qu'il ne faut plus lire Heidegger. Au contraire, j'ai, dès janvier de 2006, écrit une tribune dans Le Monde qui s'appelait « Pour l'ouverture des archives Heidegger ». C'est-à-dire que j'ai essayé de faire que tous les chercheurs puissent avoir accès aux archives, qu'on puisse les publier, ce qui n'est toujours pas le cas. On se heurte toujours à ce problème. Donc mon but, c'est d'essayer de donner aux lecteurs, aux auditeurs, au public, les moyens de lire effectivement ce qu'Heidegger a enseigné. Quand par exemple Hans Jonas dit de l'enseignement de Heidegger dans les années 20, dans les mémoires d'Hans Jonas, il dit « ce n'était pas une philosophie, mais une affaire sectaire, presque une nouvelle croyance ». Eh bien, quelle était la teneur de cette croyance? Qu'est-ce que Heidegger enseignait qui a pu tant capter les auditeurs? Pour cela, il faut lire tous les écrits, il faut avoir à leur disposition tous ces textes. Donc je milite avec des amis historiens et des amis philologues de manière interdisciplinaire pour que nous ayons, chercheurs et publics, l'accès à tous les textes.
Et pour mieux le discréditer.
Alors, ma position est la suivante, c'est que, parce que je suis aussi prof de philo, j'ai été prof de lycée, je suis prof d'université, je suis pas le seul à penser que Heidegger n'est pas un auteur à enseigner dans les B.A.B.A. Jean-Luc Marion disait lui-même que lui-même n'aime pas faire diriger des thèses sur Heidegger, il pense que c'est un auteur qu'il faut étudier vers la fin. Effectivement, je pense qu'il faut une bonne culture à la fois philosophique, historique et philologique avant d'aborder ce genre d'auteurs qui fâchent, qui sont extrêmement problématiques. Si problématiques que quand même depuis 1984, alors que Heidegger est au programme de terminale, aucun texte n'a été de lui donné au bac. J'étais un jeune prof en 2004. Je me souviens qu'on avait donné un texte en terminale littéraire sur la science qui ne pense pas. Il y avait un tel tollé dans les commissions d'harmonisation que prudemment, les ayants droit ont bloqué et ont interdit même que l'on mette des extraits de textes dans les manuels. C'est quand même une situation hallucinante. Vous avez un auteur qui est au programme de terminale et on ne peut pas éditer des extraits dans les manuels. À l'exception d'un ou deux manuels qui, étant très favorables à Heidegger, ont obtenu un passe-droit exceptionnel. Donc, il y a vraiment un verrouillage. Alors maintenant, sur l'œuvre même, ce qui est tout à fait curieux, c'est que si vous prenez, par exemple, le cas de Céline, qu'on
évoque souvent. Donc, Louis Ferdinand Céline, l'auteur de Voyage au bout de la nuit, dont on sait, en lisant d'autres textes comme Les Jeux de la Nuit, qu'il a été foncièrement antisémite.
Donc il y a le cas de Céline, qui est à la fois l'auteur de Voyage au bout de la nuit, mais aussi l'auteur de Bagatelle pour un massacre, voilà, de pamphlets antisémites vraiment insoutenables. Je prendrai aussi le cas d'un juriste nazi, Carl Schmitt, qui aujourd'hui est parfois considéré comme un grand politologue, mais qui a écrit des textes extrêmement antisémites, et notamment en 1936, il avait organisé un grand colloque de juristes nazis pour traquer dans la science du droit allemand tous les non-juifs. Ce que je veux dire, c'est que ni Carl Schmitt ni Céline, après 1945, n'ont programmé l'édition pour l'un de ces pamphlets antisémites, qui ne sont pas réédités, ni pour l'autre l'édition de ces textes les plus antisémites. Alors que Heidegger a programmé à la fin de sa vie l'édition de tous ses cours, l'édition de la majeure partie de ses séminaires, l'édition de tout un ensemble de textes et finalement des cahiers noirs eux-mêmes, comme faisant partie de ce qu'il nomme sa Gesamtausgabe, son œuvre intégrale en 102 volumes. C'est quand même assez...
C'est pas 102 volumes complètement antisémites. Il y a des références et des citations extrêmes, résolument antisémites, là, sans embâche, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses dans ces cahiers noirs.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais l'intentionnalité, il faut comprendre ce que Heidegger Il n'a pas lui-même mis de côté ces textes antisémites. Il les a au contraire inscrits dans son œuvre intégrale pour la postérité et comme étant ce qu'il fait les publier à la fin, comme étant en quelque sorte les révélateurs de l'œuvre. Donc ce qui fait qu'il faut vraiment qu'on étudie les stratégies de publication de Heidegger lui-même pour comprendre quelque chose. Je retrace un tout petit peu. Dans les années 60, Heidegger publie des textes comme les cours sur Nietzsche, et il les édulcore, il les coupe, il enlève des phrases, comme par exemple il dit que la démocratie serait la mort de l'Europe. Ou encore la conclusion d'un cours de 40 où il explique que la motorisation de la Wehrmacht est un acte métaphysique beaucoup plus important que le fait que l'on supprime la philosophie de l'enseignement. Donc ces textes, il les enlève pour rendre acceptable la publication de ses cours. Donc il édulcore, il veut reprendre pied dans la vie intellectuelle européenne. Et une fois que c'est acquis, il programme des textes insoutenables qui, s'ils avaient été publiés en 60, auraient été un tollé tel qu'à mon avis, Heidegger ne serait pas où il en est dans la réception. Il les programme pour que, à la fin, on sache ce qu'il avait finalement en tête.
Vous employez le terme de programme, c'est très fort. Ça veut dire Heidegger aurait tout orchestré depuis le début dans une continuité, dans une logique qui serait proprement antisémite, une logique d'extermination, puisque ce terme est prononcé par lui.
Alors, effectivement, il faut reprendre...
C'est pour ça que vous ne dissociez pas la lecture d'Être et Temps, par exemple, du reste de son œuvre et du reste de sa vie. Pour vous, tout est cohérent.
Il faut reprendre l'intentionnalité de Heidegger, parce que on dit souvent, bon, Être et Temps, c'est 27, la carte au parti nazi, c'est 33, et Richard Rorty et d'autres disent, si Heidegger était mort en 27... Être et Temps n'aurait pas posé de problème. Alors, ce qu'il faut répondre d'abord, je pense, enfin, ce que l'on peut répondre, je ne prétends pas donner le dernier mot, tout ça est ouvert au débat. Mais la première chose qu'il faut voir, c'est que dans les fameuses lettres à Elfried, il écrit à sa fiancée, ces lettres qui ont été pilonnées par les ayants droit, nous sommes en octobre 1916. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit ? La race allemande doit trouver assez de force pour parvenir au sommet, et face à quoi ? Face à ce qu'il appelle l'enjuivement, Verjüdung, c'est un mot vraiment du niveau du caniveau, parce qu'il y a aussi Judaisierung qui veut dire la judaïsation, mais il emploie le mot Verjüdung.
Enjuivement.
L'enjuivement de nos universités, de notre culture est effrayant, dit-il, et il faut donc que la race allemande s'y oppose. Ce qui fait que c'est pas simplement un affect antisémite, c'est un programme de compétition entre race allemande et enjuivement qui se trouve ici formulé. Et ce programme, si on lit attentivement les textes de Heidegger, on le voit courir tout au long des années 20 jusqu'au moment où il peut, dans ses enseignements même, expliciter, dire publiquement ce qu'il disait dans des lettres.
Mais pardon, mais pourquoi parlez-vous de programme ? Qu'il emploie le terme d'enjuivement, c'est indéniable, mais c'est pas programmatique cette lettre.
Si, je pense que la race allemande peut trouver suffisamment de force pour parvenir au sommet. Hein. Et par exemple, dans un cours de 34, qui n'est toujours pas traduit en France.
Voilà, là, je l'ai sous les yeux. Là. Oui. Je vais lire un extrait, peut-être, si vous voulez qu'on l'entende. L'extrait dit, le texte, donc, c'est un extrait de L'essence de la vérité, le cours du semestre d'hiver 1933-1934, traduit par vous, Emmanuel Faye. Hein. Le combat comme affrontement de l'ennemi. L'ennemi est celui-là, et tout un chacun qui fait planer une menace essentielle sur l'existence du peuple et de ses membres. L'ennemi n'est pas nécessairement l'ennemi extérieur, et l'ennemi extérieur n'est pas nécessairement le plus dangereux. Il peut même sembler qu'il n'y a pas d'ennemi. L'exigence radicale est alors de trouver l'ennemi, de le mettre en lumière, ou peut-être même de le créer, afin qu'il y ait lieu cet affrontement de l'ennemi et que le Dasein ne soit pas hébété. L'ennemi peut s'être incrusté dans la racine la plus intime du Dasein d'un peuple et s'opposer à l'essence propre de celui-ci, agir contre lui. D'autant plus acéré et dur et difficile est alors le combat, car la confrontation mutuelle n'en constitue que la moindre partie. C'est souvent une tâche bien plus difficile et de plus longue haleine que de repérer l'ennemi en tant que tel, de le mettre en évidence, de ne pas se faire d'illusions sur son compte, de rester agressif, de ménager et augmenter sa disponibilité constante et de mettre en place l'agression à long terme avec pour but l'extermination totale. Völlige Vernichtung. Donc c'est votre traduction, extermination totale, parce qu'on peut aussi traduire Vernichtung par anéantissement, oui. Ce qui n'est pas la même chose.
Les deux traductions sont possibles et je pense qu'elles veulent dire la même chose. Alors, ce qui est intéressant dans la réception, c'est que quand j'ai publié ce texte, qui était inconnu en France, il n'y a eu à peu près aucune discussion publique dans le champ philosophique autour de ce texte. Il y avait une sorte d'omerta, quoique Roger Paul Droit l'avait mis au centre d'un article dans Le Monde. Depuis les Cahiers Noirs, cette question du thème de l'extermination ou de l'anéantissement dans les textes de Heidegger est revenue à l'avant-scène dans la mesure où on retrouve en 41-42 cette thématisation dans les Cahiers Noirs. Et par exemple, Le Seuil avait publié une édition là du petit livre de Peter Travny sur je vois que vous l'avez.
Heidegger et l'antisémitisme, voilà. Sur les Cahiers Noirs.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis, il a fait deux autres éditions et dans la troisième, il y a tout un chapitre où il thématise enfin cette question de l'extermination et on va en parler de l'auto-extermination. Et il y a une note d'une page où il essaye de se demander si ce que Heidegger veut dire en 34 est seulement un anéantissement spirituel ou une extermination physique.
Hein. En tout cas, n'est pas question de là pour le coup des Juifs en particulier dans ce texte.
Alors, écoutez, l'ennemi intérieur incrusté dans la racine la plus intime du peuple, c'est vraiment un topos de l'époque, qui est un topos antisémite. Vous avez par exemple en 1930 un texte peu connu en France de Junger qui s'appelle Nationalisme et questions juives, dans lequel il s'oppose à l'assimilation des Juifs et dire aujourd'hui le Juif n'a qu'une alternative en Allemagne, être juif ou ne pas être, comme, dit-il, une strate d'huile sur une eau pure et claire. Hein, donc, il faut, vous voyez, il s'agit, alors chez Junger, il s'agit de casser l'assimilation et que un juif allemand apparaisse pour ce qu'il est, c'est-à-dire un juif et non pas un allemand. Hein. Heidegger va plus loin.
Oui, pas dans ce. Vous reconnaissez qu'ici, il n'est pas question des juifs. Ce texte est extrêmement gênant par la violence qu'il implique et la violence philosophique, parce qu'il parle du Dasein, donc ce concept heideggerien qu'on traduit pas en fait, qu'on appelle Dasein, l'espèce d'être là ou être pour la mort, qui est en fait l'être humain dans son rapport à la mort justement, en disant que voilà finalement le Dasein a besoin d'un ennemi pour exister, cet ennemi est accroché à sa racine et il faut rester agressif, il parle d'extermination ou d'anéantissement, c'est extrêmement violent. Et ça, en ça, ça peut être gênant d'ailleurs de dire que la philosophie d'Heidegger est si violente, mais ce texte-là, non. Il n'est pas question des Juifs.
Il est évidemment question des Juifs pour la raison suivante. C'est que dans mon livre de 2005, je publie un autre texte qui avait été connu par Schneeberger. C'est un texte du Kampfbund für Deutsche Kultur. C'est un mouvement antisémite d'étudiants et aussi de nazis comme Rosenberg, etc. Ce Kampfbund va appeler à ce qu'il appelle la Völligenvernichtung, c'est exactement la même expression, l'extermination ou l'anéantissement total, disent-ils non pas là de l'ennemi, de la littérature juive et marxiste. Et Heidegger, pour ses étudiants qui connaissent ce discours, c'est le discours, si vous voulez, dès qu'ils sortent de leur amphi, ils ont, imaginons, ces étudiants nazis qui leur réaffirment constamment ça. C'est le langage du temps. Donc il faut avoir la contextualisation historique pour comprendre. C'est comme le mot folkisch, etc. Donc cette Völligenvernichtung, c'est vraiment, le, si vous voulez, le concept meurtrier qui est véhiculé par les ligues d'étudiants nationaux-socialistes contre ce qu'ils appellent la littérature de pourriture judéo-marxiste, qui va conduire aux autodafés. Donc là, vraiment, le texte est signé. C'est comme si vous disiez...
On est en 33 quand même, hein. C'est-à-dire que, est-ce que même les national-socialistes eux-mêmes n'avaient pas forcément déjà des projets d'extermination?
Alors justement,
et c'est là où la traduction a son importance d'ailleurs. Anéantissement, c'est pas extermination. Alors, pour nous, extermination, c'est l'extermination des Juifs par les nazis 10 ans plus tard.
Alors effectivement, on peut dire, faut-il... Alors la question de traduction en français est une chose, mais ce qui est important, c'est le mot Völligen. C'est-à-dire que cet anéantissement est total. Il est sur tous les plans. C'est-à-dire que s'il était seulement spirituel, il ne serait pas total. Vous comprenez, il s'agit vraiment d'anéantir le judéo-marxisme et les juifs en particulier, vraiment, malheureusement, sur tous les plans. Alors, ce qui est très troublant, c'est que dans les cahiers noirs, alors juste après, dans le même texte, il faut voir qu'il est question de l'élément asiatique dans la page suivante. Or, l'asiatique, c'est vraiment un terme aussi extrêmement connoté à l'époque. Il ne s'agit pas des Japonais ou des Coréens, il s'agit vraiment de, dans le langage de Rosenberg, etc., quand Heidegger parle de la grande lutte de l'Occident contre l'asiatique, c'est vraiment le sémite. Ce qu'il appelle dans un séminaire de la même époque que j'ai fait connaître, les nomades sémites, par exemple. Ce sont évidemment les Juifs. Donc le fait que ce texte vise avant à la fois l'opposant politique et l'ennemi de race, hein, est quelque chose, à mon avis, qu'on ne peut pas discuter. Et d'ailleurs, même Travigny ne discute pas. Lui, il demande simplement si il faut prendre ce texte comme allant jusqu'à une élimination physique. Hein. Moi, je le prends juste dans sa littéralité. C'est un anéantissement total sur tous les plans. Rien n'est excepté. Et ce thème de la Vernichtung, on le retrouve en 41. En 41, nous sommes juste au moment où, vous savez, il y a ce camp de Theresienstadt, qui est à la fois une vitrine pour la Croix-Rouge, mais aussi un lieu de transit vers les lieux d'extermination, Sobibor, Balzac, etc. Et Theresienstadt, c'est un endroit où les Judenräte, les conseils juifs, sont obligés de fournir tous les jours des listes de ceux qui vont devoir repartir, etc. On les oblige, on les contraint à participer au travail du génocide, et s'il y a la moindre réticence de ces conseils, eh bien, on extermine leurs membres. Hein. Tous seront exterminés, sauf le dernier, Mormelstein, qui témoignera, qui discutera avec Lanzmann dans Le Dernier des Injustes, et qui, dont je cite justement le témoignage extrêmement éclairant. Eh bien, à ce moment-là même, Heidegger a cette phrase dans Les Cahiers Noirs, c'est dans le volume 3. « L'acte le plus haut de la politique, dit-il, consiste à contraindre l'adversaire à procéder de lui-même à son auto-extermination. »
Vous le citez par cœur, là.
« Selbstvernichtung. Je le cite en l'abrégeant un peu. Hein. Et il ne cite pas là les Juifs, donc on pourrait dire, est-ce que ce sont les Juifs qui sont cités? Mais l'année suivante, en 42, dans le tome 4, au moment où on est à la fois dans la Shoah, mais en même temps au moment où les Allemands sont en train de perdre, parce qu'il y a Stalingrad, hein, Heidegger revient sur ce concept de Selbstvernichtung, d'auto-extermination, mais cette fois-ci, il l'impute aux Juifs eux-mêmes. Il dit, l'élément juif est le summum de l'auto-extermination dans l'histoire. Donc si on prend la succession de ces énoncés, on voit qu'il y a, si vous voulez, un fil rouge qui relie ces textes sur race allemande et Verjudung aux différents textes sur la Vernichtung, l'extermination, puis l'auto-extermination, avec un renversement en 1945, où là, Heidegger, comme les nazis les plus fanatiques du temps, victimise les Allemands et dit dans son dernier volume des Cahiers Noirs que c'est l'Allemagne elle-même qui est aujourd'hui, de la faute des Alliés, un gigantesque 4-7, c'est-à-dire un gigantesque camp de concentration. Donc vraiment, on le voit qu'il suit la progressivité de l'histoire, mais il est vrai qu'en 1934, il semble devancer.
Mais alors, vous présentez cette évolution de la pensée de Heidegger comme un programme, c'est le terme que vous employez. Vous avez une lecture un peu téléologique, hein, comme si effectivement il déployait, en suivant ce fil rouge, comme vous l'appelez, de sa pensée, tout un programme qui conduit à l'extermination qui a effectivement eu lieu. Est-ce qu'on ne peut pas, sans remettre en question, c'est même pas le sujet, les propos antisémites et les positions, la pensée sans doute antisémite de Heidegger, voir que dans sa philosophie elle-même, indépendamment de ces textes-là, il y a une pensée, et c'est peut-être le reproche le plus imparable qu'on peut lui faire, qui est d'une violence incroyable, qui est une pensée de l'anéantissement, de l'extermination, et qu'en cela, on peut même aller jusqu'à dire que c'est un philosophe qui en lui-même est nazi, c'est-à-dire qu'en lui-même a cette violence absolument inhumaine, qui serait d'ailleurs contre une forme d'humanisme, hein, on pourra y revenir, et que c'est une raison suffisante peut-être pour ne pas lire Être et Temps comme on lit un autre ouvrage de philosophie.
Mais alors justement pour Être et Temps...
Parce que tout est parti de là, oui, en fait, oui, oui. C'est justement de la série d'émissions que nous avons proposées sur Être et Temps, vous disiez que vous n'avez invité personne qui avait une attitude critique par rapport à ce texte. Et je maintiens, voilà, là, le problème est-il que l'antisémitisme d'Heidegger qui discrédite son travail philosophique dans Être et Temps, en 1927, ou bien est-ce que c'est sa pensée elle-même, y compris telle qu'elle est exprimée dans Être et Temps, qui est foncièrement problématique parce que qui appelle à une forme d'extermination, de domination d'une race sur une autre?
Alors, effectivement, est-ce que il y a quelque chose qui s'exempte de cette violence? Prenons Être et Temps. Je pense à l'émission que vous avez eue avec notamment Bruno Pinchard. Vous étiez centré, tout à fait légitimement, sur les premières lignes d'Être et Temps que vous aviez lues ou fait lire, sur ce fameux oubli de l'être, hein, dont Heidegger est crédité. Alors là, on se dit, bon, l'oubli de l'être...
C'est le point de départ d'Être et Temps, et il dit, hein, oui, des siècles de métaphysique ont oublié l'être.
Oui. Mais alors écoutez, ce qui est absolument étonnant et qui n'a jamais encore été dit, j'en ai parlé dans une table ronde à la Sorbonne au début de l'année. Donc c'est quelque chose qui est nouveau par rapport à mon livre. J'en ai parlé également il y a eu un grand colloque en mars à l'université de Siegen, organisé par Marion Heinz et Sidonie Kellerer sur Être et Temps, justement. C'est que la différence, l'oubli de l'être, c'est-à-dire la différence entre l'être et l'étant, c'est le thème central et initial à la fois du philosophe Ernst Cassirer, lorsque, en 1923, il publie La philosophie des formes symboliques, qui, elle, est traduite dans la collection de Bourdieu à minuit. Cassirer commence en ces termes. Je lis, si vous voulez, les deux premières phrases de son livre. C'est le concept d'être, écrit Cassirer, qui marque le tout premier commencement de la spéculation philosophique. Il continue, la manière spécifiquement philosophique de considérer le monde surgit seulement dans l'instant où ce concept se constitue comme tel, où la conscience s'éveille à l'unité de l'être, par-delà la multiplicité et la diversité de l'étant. Donc, que dit Cassirer? La position de Cassirer, c'est que la philosophie commence avec Socrate et Platon, quand, dans le sophiste, Platon prend sa distance à l'égard des mythes et des récits sur l'être pour constituer le concept de l'être en tant qu'il se différencie de la multiplicité des étants. Donc, la différence ontologique est là. Mmh. Et que fait Heidegger? Il s'empare, si vous voulez, de ce thème majeur chez Cassirer, sans donner sa référence, c'est un plagiat programmé, pour l'annuler et l'inverser. C'est-à-dire que la position dans l'histoire de Heidegger consistera à dire que tout au contraire, la véritable pensée est chez les présocratiques et que l'oubli de l'être commence avec le sophiste de Platon. Il cite les mêmes
donc,
textes.
Donc cette malhonnêteté, en fait, pour vous, Heidegger est un abominable personnage du début à la fin. C'est pas que sa pensée ou ses positions antisémites, c'est tout.
Oui,
tout.
C'est sûr qu'à la différence de Arendt, où je distingue bien la personne que je ne critique pas, et certains écrits chez Heidegger, je crois que effectivement tout cela forme un tout. Maintenant, évidemment, c'est un auteur qui a tellement marqué le XXe siècle que le philosophe, dans le champ philosophique, se doit d'avoir un travail critique. On peut pas le mettre de côté. Il faut l'affronter. Pinchard dit qu'il faut traverser Heidegger. Je veux bien, mais le traverser sans, je n'irai pas comme mon ami Bruno Pinchard louer cette technicité, parce qu'en fait, c'est une technicité d'emprunt. Il reprend. Écoutez, je pense que vous avez lu aussi l'Étoile de la Rédemption de Rosenzweig. Rosenzweig met au centre le Dasein, il met au centre le rapport à la mort, il met au centre les trois moments de la temporalité. Tout cela aussi, Heidegger s'en empare. Donc je pense que Être et Temps lui-même, c'est un livre qui met en œuvre cette volonté de prendre le meilleur de l'adversaire fantasmé. Hein, Heidegger est vraiment, dans le champ philosophique, dans la même situation que ce que l'historien Saul Friedlander a décrit comme un antisémitisme rédempteur.
Donc que faites-vous de la réception française, pour le coup, d'Être et Temps, de la pensée d'Heidegger, notamment de Être et Temps, parce que les textes sont sans doute, sont peut-être moins connus, mais en tout cas, restons-en à cet ouvrage, oui. Lafargue de 1927, qui va de Derrida jusqu'à Jean-Luc Nancy, qui a publié il y a 2 ans une banalité de Heidegger, justement, pour revenir sur cette polémique-là. Est-ce que, selon vous, c'est un déni de la part des intellectuels et des philosophes français? Est-ce que c'est une manière, pourquoi voudrait-il excuser ou diminuer son antisémitisme? Est-ce un contresens? Est-ce que finalement votre problème n'est pas aussi les lecteurs contemporains, les philosophes contemporains qui se revendiquent de Heidegger plus qu'Heidegger lui-même?
Alors là aussi, il faut travailler effectivement sur la réception. Il faut voir le problème de la déconstruction, c'est que c'est quand même un mode de lecture qui est très largement anti-philologique et décontextualisant. Ça serait toute une discussion à faire sur la manière dont Derrida lit les textes, mais c'est un autre problème que je n'ai pas encore abordé. Il y a des choses très fines chez Derrida, mais il est sûr que sur ce plan-là, on peut se poser des questions. Mais ça serait vraiment un autre débat.
Alors, j'ai mal formulé ma question, pardonnez-moi. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que la réception de Heidegger, ouais, après Heidegger, la réception de sa pensée, le travail que les philosophes ont fait sur son texte, a été créatrice, a produit des pensées philosophiques qui, elles, ne sont pas du tout antisémites, ne sont pas du tout, n'appellent à aucune extermination, et qui pourtant ont pu naître aussi de la fréquentation de ces textes-là. Est-ce que c'est pas un bon argument pour ne pas, pour reconnaître une certaine validité philosophique au texte de Heidegger?
Mais tout dépend ce qu'on reprend. Si on reprend la différence de l'être et de l'étant, qui est un thème qui est tout à fait pertinent, notamment chez Cassirer, ou si on prend le Dasein, qui est au centre de l'étoile de la rédemption de Rosenzweig, dont Heidegger s'empare pour en détruire, à mon avis, le sens historique, c'est en quelque sorte la philosophie qui reprend son bien, si vous voulez. Mais le problème, c'est que Heidegger véhicule ce qu'il appelle lui-même, et on l'oublie, une vision du monde. C'est-à-dire que dans son opposition à Cassirer à Davos, il y a cette phrase où Heidegger dit que c'est la vision du monde qui est, dit-il, la condition de l'acte de philosopher. Donc il n'y a pas d'autonomie du philosopher pour lui, c'est quelque chose qui est beaucoup trop méconnu. Il y a à l'origine une vision du monde qui n'est pas un regard de la conscience, c'est une vision du monde, on pourrait dire, que nous sommes et non pas que nous avons. Donc il y a un fond racial. Il y a ceux qui sont vraiment des Dasein et ceux qui ne peuvent même pas mourir parce qu'ils ne sont pas encore dans le poème de l'être. Hein. Donc il y a un fond de discrimination tout à fait radical. Et le problème, c'est peut-on se faire de Heidegger sa source d'inspiration sans reprendre des éléments de cette vision du monde qui est foncièrement sélective, raciale et d'une intentionnalité génocidaire.
Parce qu'il c'est le cas, pour le coup. Les philosophes contemporains que j'ai cités, on ne peut pas dire qu'ils appellent au génocide.
C'est là où je dis, bien sûr, c'est là où je dis que si on reprend la distinction entre étant des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si on reprend le discours heideggerien sur l'Occident, qui est vraiment un discours révisionniste, c'est-à-dire que Heidegger criminalise la raison, Descartes, les Lumières, le respect de l'individualité, tout ce qui était les cibles mêmes des nazis. Donc ce qui est problématique dans la postmodernité, ce n'est pas, je n'ai jamais un instant dit, j'avais fait une émission à France Culture avec Marc Voinchet et Philippe Lacoulabart, on a déjeuné ensemble après, nous n'étions pas d'accord, mais nous sommes dans un dialogue. Je ne soupçonne évidemment pas Philippe Lacoulabart d'avoir la moindre velléité nazie, c'est clair. Mais le problème, c'est que il est pris dans cette inversion des responsabilités. Au lieu d'approfondir cette Weltanschauung nazie dans tous ses éléments génocidaires, etc., le risque dans la postmodernité, c'est qu'on va suivre Heidegger dans la criminalisation de ceux qui étaient en fait les victimes, et on les met du côté des bourreaux. On fait comme si c'était la raison.
Alors ça, c'est un autre point.
C'est ça que je trouve.
Ça veut dire, et ça, pour le coup, c'est ce que vous montrez notamment à partir de Arendt dans votre ouvrage, qu'on pourrait soupçonner, selon vous, notamment à partir de ses écrits dans le procès d'Eichmann, Eichmann à Jérusalem, d'accuser les Juifs eux-mêmes d'être en partie responsables de leur extermination.
Et oui, c'est pour ça que j'ai voulu prendre, parce qu'il faut travailler les cas. J'ai fait quand même 5 ou 6 ans de séminaire sur Arendt avant de faire ce livre. Donc j'ai voulu, sans aucun parti pris, j'ai lu Arendt livre par livre avec mes étudiants, voir comment Arendt en finit par épouser cette vision de la modernité de Heidegger, qui fait du nazisme en quelque sorte l'aboutissement de la modernité et qui aboutit à une forme d'indifférenciation entre victimes et bourreaux, voire à une forme de criminalisation des victimes, puisque Arendt dit dans Eichmann à Jérusalem que l'un des principaux tortionnaires, Heydrich, était demi-juif, ce qu'aucun historien ne prend au sérieux. Donc le bourreau du peuple juif aurait été lui-même demi-juif. Et elle dit que quand il a été blessé par les partisans héroïques tchèques, avant de mourir, il se serait repenti du mal qu'il avait commis sur son propre peuple.
Mais pourquoi Arendt, quel serait l'intérêt, alors que ce soit philosophique, politique ou autre d'Arendt, d'accuser les Juifs eux-mêmes, elle-même étant juive en plus?
Alors, écoutez, quand Gauss lui demande d'où venez-vous, elle dit « je viens de la philosophie allemande ». Elle ne dit pas « je viens du judaïsme ». Et cette philosophie allemande, je me suis demandé ce que c'était, parce que j'essaye de montrer dans mon livre qu'elle n'est pas réellement dans la lignée de Kant, par exemple. Hein. Je pense en fait beaucoup plus à la conclusion du livre de Spengler de 1918, Le déclin de l'Occident, où Spengler dit « Enfin, mon livre est un livre de philosophie allemande, hein, Deutsche Philosophie ». Et donc Arendt est, comme l'a assez bien vu Habermas, il dit qu'Arendt, au fond, est dans le paradigme de ce que les Allemands appellent la révolution conservatrice. Hein. Donc elle procède d'auteurs comme Spengler, elle est dans cette criminalisation de l'Occident même, à la suite de Heidegger, et là, bon, c'est quelque chose qu'il faut étudier pas à pas.
Oui, c'est, voilà, criminalisation de l'Occident n'est pas criminalisation des Juifs eux-mêmes. C'est pas la même chose.
Alors, ce qui est quand même problématique, c'est que dans le chapitre 6 de Eichmann à Jérusalem, Arendt passe très vite sur la conférence de Wannsee, dont elle fait un épisode mineur. Il y a 3 pages. Et après, il y a 9 pages qui sont un réquisitoire contre le peuple juif. Où elle dit que c'est le chapitre le plus sombre de notre histoire, de cette histoire. Alors, qu'il y ait une discussion historique sur la responsabilité de tel ou tel conseil juif, bien sûr,
oui,
il faut la faire.
Un peu plus subtil que ça quand même. Elle dit bien que si les juifs ont été eux-mêmes, les chefs juifs d'ailleurs, je crois, elle dit, ont été même responsables en partie de leur situation, ça n'était que le fruit du système nazi justement. C'est parce qu'ils étaient victimes du nazisme qu'ils ont pu devenir à leur tour bourreaux.
Mais ça va loin parce qu'elle dit quand même que si les conseils juifs n'avaient pas œuvré, il y aurait eu peut-être que 4 millions de victimes. Et ça, c'est quelque chose que Hilberg et tous les historiens ont contré.
Hein. Oui, mais c'est pas une manière d'accuser les juifs, c'est une manière d'accuser les nazis. D'avoir ainsi manipulé les juifs.
Ça va plus loin. Parce que si on fait de Heydrich lui-même un demi-juif, c'est quand même quelque chose d'assez terrible.
Et bon,
si vous voulez, un autre point, c'est qu'en même temps, dans les origines du totalitarisme, Arendt affirme, elle dit que les élites intellectuelles du Troisième Reich, et elle cite Carl Schmitt notamment, n'avaient, dit-elle, aucune responsabilité dans ce processus. Donc elle, si vous voulez, déresponsabilise complètement Schmitt, Heidegger d'un côté, et elle responsabilise, à mon avis, excessivement les Juifs eux-mêmes en les faisant, en quelque sorte, co-responsables de la mise en œuvre de leur extermination. Mais là, c'est un autre débat que celui de Heidegger même, que nous ne faisons là qu'effleurer, il faut le reprendre texte par texte.
Et dans le cas d'Arendt, c'est particulier en effet, parce que pour le coup, elle-même n'a pas écrit des textes proprement antisémites, elle a sa pensée qui est bien différente de celle de Heidegger, et donc lui faire le procès que vous adressez à Heidegger parce qu'elle aurait une relation avec Heidegger ou une affinité de pensée, c'est une méthode qui est un peu différente là pour le coup.
Non mais si vous voulez, dans mon livre, il y a 3 parties. Hein. J'étudie séparément l'Arendt de l'après-guerre, puis le Heidegger des cahiers noirs de Etretat, et c'est à la fin seulement que je regarde dans quelle mesure leur vision de la modernité et du nazisme s'entrecroisent. Mais je dis toujours, et je le dis encore à la fin de mon livre, que Arendt, et bien évidemment, n'a pas, elle, de pulsion génocidaire, elle n'est pas du côté des bourreaux, donc il ne s'agit pas de l'incriminer de quelque chose qu'elle n'a pas apporté.
Et pourquoi avoir examiné son travail au même titre que celui d'Heidegger ? Pourquoi avoir consacré un ouvrage sur Arendt à Heidegger ?
Pour la raison que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'après avoir étudié le fond raciste et génocidaire de Heidegger, j'ai voulu commencer à travailler le chapitre de la réception. Bon, d'autres travaillent actuellement justement sur la question d'Derrida, etc., ce qui n'est pas ma question. Certains travaillent sur Léo Strauss, etc. Moi, j'ai voulu comprendre ce que j'appelais la contradiction initiale, c'est-à-dire comment se fait-il que quelqu'un qui est bien connu pour sa critique du totalitarisme a pu faire à ce point l'apologie de Heidegger, alors même qu'en 1953, Heidegger publie un cours dans lequel il fait l'éloge de ce qu'il appelle la vérité interne et la grandeur du mouvement nazi. Donc, comment a-t-elle pu s'accommoder de cette pensée qui, après 1945, continue à faire l'éloge du nazisme. Et là, il y a une vraie question. Alors, on peut voir si je l'ai menée de manière suffisamment précise, si je suis en deçà ou si j'ai exagéré. Le débat, bien sûr, est ouvert. Mais je pense qu'il fallait affronter cette contradiction.
Eh bien, invitons les lecteurs à lire ce livre, Emmanuel Faye, « Arendt et Heidegger, extermination nazie et destruction de la pensée ». C'est un ouvrage disponible aux éditions Albin Michel. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci, Adèle. Thank you.
Vous écoutez France Culture et les chemins de la philosophie. Il est l'heure, comme tous les vendredis, de retrouver le petit précis philosophique à l'usage des candidats de Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Chaque semaine, vous délivrez vos précieux conseils aux candidats, hein, cette fois-ci pour les élections législatives. Alors, qui a retenu votre attention cette semaine?
Eh bien, dimanche prochain, Adèle, ça y est, on en aura tous fini avec les élections. Mais dimanche dernier, le premier tour des législatives, certains candidats en avaient déjà fini. C'est donc le cas d'Henri Guénot, à qui je vais donner un conseil. Henri Guénot, tout autant dégoûté que libéré.
J'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après...
Vous savez ce qu'on va faire ? Je vais pas me présenter du tout.
La politique serait-elle dégoûtante ? Eh bien, c'est la question que l'on serait tenté de se poser au bout de ces presque 10 longs mois de période électorale, à voir le taux d'abstention au premier tour des législatives dimanche dernier, et puis surtout à entendre ce genre de déclaration.
Voilà, je suis allé au bout du bout de mes engagements politiques, ça fait 30 ans. Un seul mandat de député qui vient de s'achever. Mais voilà, je crois que là, j'ai épuisé le sujet. Je pense que la France...
C'est-à-dire vous arrêtez, Henri Guénot ?
Oui, bah oui, il y a pas de... qu'on fait 4,5%. Même si l'électorat qui a voté dans la deuxième circonscription de Paris aujourd'hui, dans le 6e arrondissement, le 5e et une partie du 7e, est à mes yeux à vomir. À vomir, hein, vous m'entendez bien ?
À vomir, oui, oui, on a bien entendu Henri Guénot dimanche dernier sur le plateau de BFM TV, et sûrement dégoûté d'avoir été éliminé dès le premier tour des élections législatives, dégoûté de tant d'années de politique pour ce résultat, et surtout, comme il le dit, dégoûté de tant d'années vouées à cet électorat, Henri Guénot a donc lâché le mot et cette vidéo a fait le tour des réseaux. Et il y a de quoi, car que vient faire un tel mot, vomir, dans la bouche d'un homme politique, que l'on peut croire rodé justement après tant d'années au contrôle de soi et à la langue de bois. Mauvaise tête ou coup de tête, à quoi Henri Guénot s'est-il donc laissé aller ? Eh bien peut-être à la nausée, celle-là même que Sartre décrit avec son personnage d'Antoine Roquentin. Car comme Henri Guénot, lui aussi, face au monde, a des envies de vomir. Mais quand l'un est pris de nausée dans un café, l'autre continue à l'étaler sur les plateaux télé. Et si loin de subir la nausée, Henri Guénot en avait fait au contraire de quoi retrouver toute sa liberté.
Disons qu'il y a les bobos, je ne peux pas en parler, dans l'entre-soi de leur égoïsme. Puis il y a cette espèce de bourgeoisie traditionnelle de droite, c'est celle qui va à la messe, qui envoie ses enfants au catéchisme, puis après qui vote pour un type qui pendant 30 ans s'est arrangé à tricher par tous les moyens. Bon, voilà, c'est tout, j'ai voulu aller jusqu'au bout, je suis allé jusqu'au bout. Un peu pété, nié, vous savez, tous ces gens-là qui ont voté à la primaire de la droite, qui nous ont fait... Voilà, c'est... Maintenant je suis libre, donc voilà.
Comme je me sens loin d'eux, du haut de cette colline. Il me semble que j'appartiens à une autre espèce. Ils sortent des bureaux après leur journée de travail, ils regardent les maisons et les squares d'un air satisfait. Ils pensent que c'est leur ville, une belle cité bourgeoise. Ils n'ont pas peur, ils se sentent chez eux. Ils n'ont jamais vu que l'eau apprivoisée qui coule des robinets, que la lumière qui jaillit des ampoules quand on appuie sur l'interrupteur. Ils ont la preuve, 100 fois par jour, que tout se fait par mécanisme, que le monde obéit à des lois fixes et immuables. Les imbéciles. Ça me répugne de penser que je vais revoir leur face épaisse et rassurée. Ils légifèrent, ils écrivent des romans populistes, ils se marient et ils ont l'extrême sottise de faire des enfants. Tels sont les mots décomplexés d'Antoine Roquentin pour décrire sa ville et ses habitants imbéciles, donc dans la nausée de Sartre. De quoi rappeler les électeurs à vomir d'Henri Guénot, de quoi rappeler la position de surplomb qu'il tente d'afficher, sa prétendue lucidité qu'il n'a de cesse d'exhiber. Mais pourquoi vouloir ainsi la professer ? C'est bien le problème. Si la nausée donne à Henri Guénot le plein sentiment d'exister et une liberté de ton retrouvée, pourquoi donc s'entêter à le montrer ? Pourquoi tant vouloir le prouver ?
N'étant plus un homme politique, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur, mais je l'ai dit, vous savez, j'ai pas disjoncté, j'assume froidement ce que j'ai dit.
Que la politique en dégoûte certains, électeurs comme candidats, pourquoi pas, mais jusqu'où la nausée n'est-elle pas un mauvais procédé quand elle est tant exposée ? Pourquoi donc venir délibérément à la télé vomir, ce terme même de vomir ? C'est bien à nouveau la même différence entre Antoine Roquentin et Henri Guénot, l'un à la nausée dans un café ou devant un marronnier, il prend alors conscience de l'absurdité de l'existence, de sa propre existence, mais l'autre à la nausée devant ses propres électeurs et prend conscience de l'absurdité de son existence politique, de sa seule carrière. Et si par comble, Henri Guénaud avait au final fait de sa nausée, de quoi justifier sa mauvaise foi de candidat éliminé.
Génial ce rapprochement entre Henri Guénaud et Roquentin, Géraldine. On pourrait penser à ma PSOA qui lui aussi dit que quand il voit les gens autour de lui, il est parfois pris d'une énorme nausée qui lui donne envie de vomir.
Et ben voilà, et ben un autre...
Henri Guénaud, métaphysicien en réalité.
Métaphysicien, un conseil aussi à PSOA à faire lire à Henri Guénaud, ou alors il peut lire justement, puisque je parlais de mauvaise foi, L'être et le néant, donc de Sartre, la partie sur la mauvaise foi du garçon de café, de quoi prendre conscience de la mauvaise foi du mauvais joueur.
C'est noté, Géraldine, et Henri Guénaud peut réécouter votre chronique en ligne et la télécharger hein, pour bien être imprégné de vos conseils, Henri Guénaud et vous autres aussi, chers auditeurs, évidemment, pour réécouter cette chronique et l'émission du jour, donc c'était avec Emmanuel Faye, tout ça était disponible et téléchargeable sur le site des Chemins de la Philosophie. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie d'ailleurs, Marianne Chassor, Lydia Garrigue, Nicolas Bouclou, Antoine Ravon, Milena Elig qui a réalisé cette semaine, c'était Régis Nicolas qui était à la prise de son. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine, une nouvelle série d'émissions sur la pensée et le mouvement d'Henri Bergson. Et oui, les deux premiers essais introductifs, le possible et le réel, l'intuition philosophique, la perception du changement, ce sont des textes magnifiques, mélodiques, bergsoniens qui vont vous accompagner donc à l'écoute la semaine prochaine. Rendez-vous sur nos pages et comptes Facebook et Twitter où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour en attendant vos remarques et commentaires. Sur France Culture, à 11h, vous retrouverez Florian Delorme pour son émission Culture Monde, mais tout de suite votre feuilleton quotidien, La vie moderne.